de VOA Afrique.
Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue dans À votre avis. Ce soir, nous parlons des inondations en République démocratique du Congo. Des inondations qui ont dévasté plusieurs villages dans le sud Kivu, faisant des centaines de morts et des milliers de disparus. Plus de 3000 personnes ont perdu leur maison et dans la même semaine, des inondations avaient fait au moins 130 morts au Rwanda voisin. Que dites-vous de ces inondations? Surtout, que faire pour s'en prémunir et comment renforcer les interdictions de construire dans les zones inondables? Vous pouvez appeler maintenant en direct au plus 1-202-205-2633. Vous pouvez aussi enregistrer vos réactions sur WhatsApp au plus 1-202-297-60-89. Au micro, ce soir, c'est Nanit Talani. Je suis assistée à la réalisation par Georges Léonard Sadio et à la technique par Cornelius. Pour commencer, nous allons écouter l'extrait d'une interview du gouverneur du sud de Kivu.
Le deuil national a été décrété par le président de la République en mémoire des victimes de la catastrophe des Calais, précisément à Nyamukubi et à Bushushu. C'est à plus de 80 km de Bukavu. Donc c'était question de rendre hommage à nos compatriotes qui sont décédés. Alors à notre niveau, nous avions déjà fait les déplacements des Calais il y a 3 jours et nous avons apporté la première assistance d'abord aux victimes en ce qui concerne l'enterrement. Nous avons fait un enterrement sécurisé. Et puis, à côté des victimes, il était des décédés, voulais-je dire. Il était question aussi de s'occuper de personnes blessées. Donc, nous avons donc transféré le blessé sur place et d'autres ont été référés au niveau des formations sanitaires appropriées ici à Bukavu. À côté de ça, il était question aussi de regarder la situation, que ce soit aussi la route qui est touchée, donc la route nationale numéro 2, où nous avons demandé que l'office des routes puisse déjà entreprendre des travaux puisque la route est sectionnée à plusieurs endroits. Évidemment, il y a aussi des mesures à court terme et à long terme qu'on va prendre pour nous éviter, pour prendre des mesures face à cette catastrophe naturelle qui nous est arrivée. Depuis hier, nous avons aussi reçu la délégation du gouvernement central conduite par le vice-président de l'Assemblée et avec plusieurs pour qu'ensemble ils viennent nous appuyer à riposte face à cette situation. Vous voyez, ce bilan bouge au fur et à mesure que les recherches en cours, on a des personnes qu'on découvre décédées et d'autres blessées. Donc le bilan qu'on a actuellement, on est autour de 401 personnes, c'est le bilan que nous avons eu, personnes décédées. Ce chiffre macabre est en train de monter puisque au départ c'était 176 personnes et puis il y a eu des disparus qu'on arrive à trouver, donc c'est pour ça que ce bilan il est provisoire. S'il est très important, il est très lourd pour nous. Quelqu'un, on a une catastrophe, le bilan ne peut être qu'élevé. C'est une catastrophe, donc, il fait que le village qui a été touché, les rivières, tout ça.
Ok, c'était donc une interview que notre confrère Eddy Isango a réalisée avec le gouverneur du sud de Kivu. Nous avons en ligne depuis le Sénégal Mamadou Ouribari. Bonsoir.
Bonsoir, Nani Talani. Bonsoir à tous les étudiants de la VOA Afrique.
Alors, que dites-vous de ces inondations qui ont endeuillé lourdement l'est de la RDC?
Et avant tout, d'abord, permettez-moi de m'incliner devant la mémoire de tous ces disparus-là. Et vraiment, c'est très douloureux. Et que les rescapés, vraiment, en prennent des conditions à tous les rescapés dans ces inondations. C'est quelque chose qui est vraiment difficile à expliquer, surtout dans cette partie de la République démocratique du Congo, que récemment aussi on avait vu lorsqu'il y a eu aussi les volcans à ce niveau. C'était aussi paré presque avec ce virus, il y a eu beaucoup de morts. Donc tout cela a aussi, les groupes armés ont aussi tenu dans cette partie-là. Vraiment, c'est très difficile dans ce côté-là. Donc, maintenant, par rapport à ces inondations, on voit ici en Afrique, c'est vraiment répandu. Aujourd'hui, on parle de la République démocratique du Congo. et un voisin aussi le Rwanda, la semaine dernière. Vous voyez, donc bientôt, nous aussi, ici en Afrique de l'Ouest, ça sera la grande pluie. Et on sait, surtout ici au Sénégal aussi, chaque année, ici, on a pris une inondation. Donc, c'est comme si les chefs de ces États-là en Afrique, ils ne prévoient rien. Voilà, donc une chaque saison, voilà, vient avec ce dégât. Mais on ne dit que ça, c'est vraiment prévenir tout ce qui y a fait là. Donc vraiment, c'est la faiblesse, quelque part, qui sont les victimes là, franchement, de la population. Donc il va falloir que, comment on appelle, les différentes autorités au sein de nos États, vraiment, qui viennent pitié vraiment de la population, quand ils le prévenent, mais en les aidant aussi, et lorsqu'il y a ce genre de situation, vraiment pour que la population puisse en sortir. Parce que la population n'a pas les moyens pour se prévenir de ce genre de situation et catastrophe naturelle. Vous voyez, que ce soit les inondations ou bien que ce soit comme on appelle des catastrophes, c'est l'État qui, avec ses moyens météorologiques et autres, qui doivent faire vraiment tout le possible pour prévenir ce genre de situation. Les États tels qu'ils sont, ils sont très faibles. Voilà, ils n'arrivent pas à se gérer de ces situations-là.
D'accord. Mais vous savez, ces inondations ont mis aussi, en relief des endroits où il n'est pas bon de construire. Mais des fois, les gens, ils n'ont pas l'argent pour aller construire là où c'est bon. Comment les autorités peuvent assister les gens à avoir accès aux bons endroits où ils vont être un peu à l'abri des catastrophes naturelles?
Absolument, absolument, oui, vous avez raison aussi. Voilà, ce qui amène aussi les pauvres populations à aller vraiment construire dans ces zones vraiment inondables, c'est parce qu'elle a suivi compte tenu de l'air moins maigre. Voilà, donc là aussi, l'État devait aussi prendre ses responsabilités à ce niveau, en aidant ce qu'on appelle sa population. Comment ? C'est-à-dire, en le permettant vraiment à avoir des accès à des zones vraiment qui sont liées de ces zones d'inondation, voilà, pour que ces populations-là puissent rester en diminuant, comme on appelle, les prix, par exemple, des parcelles à vendre. Voilà, parce que le plus souvent, c'est subi le haut niveau, qu'on appelle des prix dans ces zones habitables, et c'est ce qui fait fuir les pauvres pour les citoyens à aller construire dans ces zones-là. Et si cette population a pu accéder à des parcelles vraiment comme on appelle, à moindre coût dans les zones habitables, mais cette parcelle n'allait pas dans ces zones-là, habiter là-bas, et tout que ces générations-là vivent et viennent les envahir. Donc l'État aussi doit prendre leur responsabilité à ce niveau. Voilà, si l'État n'offre pas de parcelles, mais quand même, que l'État réduise quand même, que réduise le prix des parcelles à vendre à ces populations-là.
Merci beaucoup, merci de votre contribution. Bonne soirée depuis Dakar au Sénégal. Nous allons en Côte d'Ivoire, nous avons en ligne Youssouf, bonsoir.
Bonsoir Nanit et à toute la rédaction auditeur de Chris.
Merci beaucoup de participer à l'émission. Que dites-vous de ces inondations qui endeuillent la RDC, notamment l'est du pays?
Alors Nanit, mes pensées vont tout naturellement à l'endroit des victimes et leurs proches, et paix aux âmes disparues, prompt rétablissement aux blessés, que Dieu fasse que tous les disparus et qui n'ont pas encore été retrouvés soient retrouvés sains et saufs. Alors Nanit, comme toujours, les dérèglements climatiques qui deviennent de plus en plus très meurtriers en Afrique ainsi que dans bon nombre de pays à travers le monde sont pointés du doigt. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'incivisme, entre guillemets, des populations, surtout dans les milieux urbains ou ruraux, où tout naturellement les zones inondables sont bondées d'habitations non adaptées à ça et là. Alors, il est, je dirais, légitime de porter ces accusations-là, mais il ne faut pas non plus oublier que, très honnêtement aussi, ces gens-là, pour ceux ou celles qui ont connu le village, les gens font avec les moyens du bord. Maintenant, quand vous revenez en ville, c'est-à-dire en agglomération où il y a une forte concentration de population, on s'en rend bien compte que le mal est encore beaucoup plus profond et flagrant. Alors, en plus des riverains, les pouvoirs publics ont aussi une grosse part de responsabilité dans certains cas de sinistres. Et en termes de contribution, moi, j'ai vraiment un conseil. Alors, tous les nouveaux plans d'urbanisation doivent, pour moi, impérativement tenir compte des effets néfastes des changements climatiques. À défaut de réparer les nombreux manquements du passé qui nous rattrapent comme toujours, il faut se donner les moyens d'être prévoyant. Alors, tout lotissement doit être régi par un plan de construction strict adapté aux parcelles de la surface donnée. Parce que si nous ne faisons pas l'effort du respect de l'environnement dans ces nouvelles formes d'exigence en une priorité, alors moi je crois que l'environnement nous imposera à nos frais son respect.
Ok, excusez-moi. Ok, allez-y d'abord, s'il vous plaît. Désolé.
Je pense qu'au-delà aussi de la responsabilité de la pollution quasi inarrêtable de la planète, je pense qu'il ne manque pas des méthodes assez simples pour minimiser l'impact du désastre. Et cela commande tout naturellement de sortir, n'est-ce pas, du confort des discours, des principes protocolaires pour ce faire. Alors, en plus d'accentuer la sensibilisation sur l'entretien des infrastructures, des canalisations et des passages d'eau, il faut, on peut le faire par exemple, donner mandat aux forces de l'ordre de veiller au respect des consignes de sensibilisation, donc de salubrité. Ici, en Côte d'Ivoire, par exemple, le gouvernement vient de lancer l'opération Zéro Mort en cette période de saison pluvieuse. Alors, la méthode est toujours la même, à savoir dégager les populations des zones identifiées comme des zones à fort risque.
Mais après, où vont ces populations? Quand on va les déloger comme ça, qui va se charger de leur nouvelle installation?
C'est justement là la problématique de l'opération. Mais ces gens qu'on met les moyens à déguerpir chaque année avec des accompagnements financiers à la limite humiliants pour moi, je crois que l'État peut faire beaucoup mieux. Et le président Ouattara connaît le calvaire des populations vivant dans ces zones-là. Alors, pourquoi ne pas élaborer un plan de socialisation? Pourquoi ne pas, par exemple, déplacer ces quartiers à risque au cas par cas? C'est-à-dire construire des quartiers respectant les normes adaptées avec des maisons basses pour chaque grande famille et ces différents quartiers-là. Et moi, je pense qu'il faut revoir tout cela pour préserver beaucoup de vies humaines qu'on en a encore pleurées à la même période de chaque année. Quand on donne ces quelques moyens à ces populations-là pour les permettre, selon le gouvernement, de déguerpir, ces gens-là partent surpeuplés d'autres quartiers qui deviennent encore à risque parce que on ne peut pas se retrouver dans une habitation avec deux ou trois familles. Ce n'est pas possible.
Et quelle est la solution idéale alors?
Je crois que la solution, c'est ce que je viens d'énumérer. Il faut que l'État songe, par exemple, à déplacer ces quartiers-là. Il ne faut pas attendre les
frais. Donc, aux frais du gouvernement.
Aux frais du gouvernement, assez simple. L'argent qu'on donne aux populations pour leur permettre de déguerpir. Ajouter à l'argent qu'on décaisse pour le déguerpissement même de ces populations-là, je pense qu'au cas par cas, quartier par quartier, année sur année, on peut...
On reconstruit la ville, quoi.
Reconstruire la ville. En d'autres termes, reconstruire la ville, déplacer ces quartiers-là sur d'autres zones qui sont moins, où il y a moins de risques pour permettre à ces gens-là de vivre, comme on le dit, dignement. Hein? Okay. Je pense que c'est faisable pour chaque grande famille. On ne va pas citer chaque famille d'une grande famille, mais quand même, je sais que dans les zones habitées comme Abidjan, un peu partout, il y a des inondations chaque année. Il y a quand même des grandes familles qu'on peut identifier, qu'on peut loger. Et à partir de là, les familles peuvent eux-mêmes essayer de reconfigurer ou trouver une autre.
Voilà. Merci beaucoup.
Je pense que ça serait vraiment la meilleure méthode pour éviter à chaque année qu'on ait vraiment à pleurer des morts et des morts. Chaque année, c'est le même scénario. Moi, vraiment, j'ai vraiment un pincement au cœur quand je vois ces images qui nous parviennent de la RDC.
Écoutez, merci.
Le bilan,
Merci beaucoup en tout cas. Vous avez merci de votre contribution. Nous allons écouter le commentaire de Alphonse Boaki. Il est à Kinshasa en RDC.
Alphonse Boakida, à votre avis, comment bloquer l'eau inondable? Il s'agit de mettre des sacs remplis de sable à plat dans le sens de la longueur par rapport au sens d'écoulement prévisible de l'inondation. La barrière ainsi formée permet de limiter la pénétration de l'eau et de filtrer les cas échéants si une pollution était à déplorer. quels sont les moyens de protection contre les inondations? Les méthodes de protection contre les inondations comprennent les contrôles de l'infiltration des eaux, la fermeture des fenêtres, des portes et des autres ouvertures dont on n'a pas besoin ou l'élévation permanente des bâtiments ou de l'équipement. Renforcer les murs pour qu'ils puissent résister à une certaine pression d'eau et bien les isoler pour prévenir le plus possible des infiltrations. Bâtir des murs étanches pour protéger l'équipement et les espaces de travail s'ils sont particulièrement vulnérables à l'eau. Ça nécessite aussi de réduire fortement les nouvelles imperméabilisations des sols et de désimperméabiliser certaines surfaces. Développer la culture du risque et repenser les espaces. Comment protéger les villes des inondations? Il faut l'aménagement des bassins versants, la surveillance, l'entretien et la réhabilitation des digues, la création et gestion des aménagements hydrauliques. Il faut interdire de construire près des côtes ou sur des terrains inondables. Comment aménager une zone inondable? Privilégier les matériaux de qualité pour les fondations, les cloisons ainsi que les vides sanitaires, afin de permettre une résistance à l'eau en cas d'inondation.
Merci beaucoup Alphonse. On va vraiment privilégier les bonnes fondations pour avoir des maisons résistantes. Nous avons au Gabon, Harry, il appelle depuis notre numéro WhatsApp. Bonsoir.
Bonsoir Dani.
Alors, vous voulez contribuer à l'émission? Qu'avez-vous à dire sur ces inondations? Est-ce que vous avez une expérience sur cela?
Oui. Comme vous l'avez annoncé, j'appelle depuis Libreville au Gabon. Et le Gabon étant, un pays tropical, donc à forte pluviométrie, nous connaissons ce type de phénomène presque chaque année. Il pleut 9 mois sur 12 au Gabon et donc on n'est pas souvent à l'abri de ce type d'incident et d'ailleurs nous en avons enregistré pas plus, je veux dire, récemment seulement, c'est-à-dire l'année dernière, on était au mois de d'octobre ou septembre si je ne me trompe et on a connu une famille qui a perdu tous ses membres, donc 7 membres d'une même famille ont péri des suites d'un éboulement et ces éboulements là sont la conséquence justement de fortes pluies qui s'abattent souvent sur Libreville et sur le Gabon dans l'ensemble et donc et là je parle de cas d'éboulements. Mais vous avez des cas de
Vous
parlez des inondations. Voilà, merci. Les inondations, nous connaissons à Libreville, la capitale. Vous savez, Libreville est presque une presqu'île parce que entourée des cours d'eau. Vous avez donc l'estuaire qui est bordé par la mer, et donc vous avez des voies d'eau qui amènent donc certaines parties de la ville à connaître des inondations. Et d'ailleurs, vous savez, il y a un des quartiers, les quartiers les plus huppés de Libreville, à savoir la Sablière, où sont logés la plupart des grands messieurs ou des grandes dames du pays. Là-bas, dans la commune d'Akanda, puisque c'est dans cette zone que se trouve d'ailleurs la Sablière, dans cette commune, la commune d'Akanda est tout le temps victime, du moins enregistre des inondations. Vous imaginez des villas aussi cossues qui se voient débordées par des eaux, et c'est là où on juste voit des catastrophes qu'on peut imaginer, notamment des électrocutions et des noyades, et c'est souvent le cas, ce qui se passe souvent à Libreville. Et donc, alors, qu'est-ce qu'il faut amorcer ou qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir éviter qu'il y ait ce phénomène? C'est simplement qu'il y ait des politiques d'urbanisation claires et nettes, parce que vous savez, à Libreville, enfin je vais dire au Gabon comme la majorité des pays africains, ce qu'on ne connaît pas les politiques d'urbanisation. Les populations s'installent souvent dans des zones avant même que les pouvoirs publics puissent aménager ces endroits-là. Et au Gabon, on en connaît. Je vous invite d'ailleurs à faire un tour. Vous allez voir qu'il y a plusieurs endroits comme ça, comme on le dit, des zones dites non édificandi, et donc qui ne permettent pas les constructions de certaines bâtisses. Et ça, c'est malheureux pour...
Est-ce qu'il y a une politique gouvernementale qui accompagne les populations pour éviter ce genre de dégâts lorsque les inondations arrivent sur les plans de construction et autres?
Oui, alors heureusement qu'on enregistre depuis quelques années, je peux dire peut-être 3 ans déjà au Gabon, cette politique-là d'urbanisation qui, par exemple, on a la construction depuis quelques années des bassins versants qui ont connu une certaine évolution, un certain développement, ce qui a permis aujourd'hui d'évacuer le trop-plein d'eau lorsqu'il pleut à Libreville dans des quartiers les plus habités. Donc vous avez déjà cette politique-là, vous avez aussi également la politique de construction des logements à des endroits qui sont adaptés, qui sont appropriés, qui sont assainis. Ça, ce sont des efforts qui sont déjà menés. Mais comme vous le savez, on ne peut pas. Paris ne s'est pas construit en un jour, donc il y a beaucoup de choses à faire encore parce qu'on enregistre toujours des inondations, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est qu'au Gabon, il pleut 9 fois sur 12. Et donc, on connaît à chaque fois, à chaque saison de pluie, ce type de phénomène. Et vous connaissez le lot des conséquences lorsqu'il s'agit d'inondations, c'est qu'il y a des maladies aussi qui surviennent. Vous avez une maladie qui existe depuis des années sur le continent, c'est le paludisme. Et le paludisme. C'est quoi qui engendre le paludisme? C'est l'existence de flaques d'eau et tout ce qui s'ensuit. Donc je pense que si on règle le problème d'inondation, on peut régler aussi plein d'autres phénomènes. Donc je l'ai dit tout à l'heure, le problème de paludisme par exemple ou d'autres maladies qui surviennent telles que le choléra. Vous avez également que la politique par exemple du traitement des déchets. Alors lorsqu'il pleut, lorsqu'il y a des inondations, c'est clair qu'on retrouve également des détritus, donc des ordures qui sont drainées par ces eaux-là. Voilà. Donc vous voyez que c'est tout un agencement de problèmes, de phénomènes dont se compare l'inondation.
Merci beaucoup. Merci en tout cas, M. Harry, d'avoir donné aussi surtout l'exemple du Gabon. On voit que beaucoup de pays dans la sous-région sont victimes de ce phénomène. Nous avons à Kinshasa Jonas Sipadi. Bonsoir.
Bonsoir, chers journalistes. Bonsoir à tous les auditeurs de la VOA.
Alors, qu'avez-vous à dire sur ces inondations meurtrières qui endeuillent votre pays?
Oui, l'inondation qui s'est faite au sud Kivu dans mon pays, c'est lié aussi au phénomène naturel, parce que beaucoup de gens peuvent toujours aller dans des milieux fertiles pour construire leur maison. Et c'est ce qui a fait qu'il y ait beaucoup de morts, surtout quand l'éblouissement du bout faisait, quand il y avait beaucoup de pluies qui étaient dans cette zone-là. Et aussi, l'État de son côté n'avait pas cherché les moyens pour faire évacuer les gens de cette partie-là. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que l'inondation s'est fait dans cette partie-là. Et il y avait aussi un temps, et depuis là, il y avait aussi l'inondation qui s'est faite.
On a été coupé, on a eu un problème technique, on regrette beaucoup. Nous allons écouter maintenant le commentaire de Sénadodi Kouadio qu'il a laissé sur notre numéro WhatsApp.
Bonsoir la VOA Afrique et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique. C'est M. Sénadodi Kouadio depuis Togo Lomé. À mon avis, je pense que c'est un problème que tous les gouvernements africains et du monde entier doivent prendre au sérieux. Oui, interdit des constructions dans les zones d'inondation. Oui, construire des maisons pour abriter la population qui sera inondée dans la saison d'inondation. Oui, creuser des caniveaux ou bien aménager les caniveaux, les élargir. Creuser des réserves d'eau dans chaque quartier pour que ces réserves d'eau puissent contenir ces eaux en période d'inondation et que les gouvernements soient prêts à avertir la population qui vit dans les zones inondées. Les avertis des dangers, parce que c'est un problème que le gouvernement doit prendre au sérieux, car ce phénomène fait trop de victimes et trop de dégâts en Afrique et dans le monde entier.
Oui, ça fait vraiment beaucoup de dégâts en Afrique. Nous avons la SGA SEC qui a dit que la meilleure manière de se prémunir des inondations, c'est qu'il n'y ait pas. D'abord, il dit que ce sont des phénomènes naturels qui sont exacerbés par les changements climatiques, mais il propose aussi la sensibilisation. Je pense que notre auditeur du Gabon, M. Harry, l'a relevé. Il faut sensibiliser la population, il faut accompagner la population. En tout cas, beaucoup d'auditeurs pensent que les gouvernements ont un rôle central à jouer parce que c'est au gouvernement qu'il appartient de déplacer les gens, mais aussi surtout d'accompagner ce déplacement pour que ces habitants qui fuient un lieu n'aillent pas encore mettre un autre lieu en péril. C'est la fin de cette émission qui était consacrée aux inondations qui sévissent et en Mundeuil, la République démocratique du Congo. Demain, nous allons revenir avec la condamnation avec sursis de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko. Au revoir à toutes et à tous. Maintenant, le Grand Journal avec Jean-Roger Bion.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Bion à ce micro pour le monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du mercredi.